Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Certains rêvent d'étoiles, lui plonge en apnée vers les abysses, au plus profond de cette solitude liquide. Je reçois Guillaume Néry, l'homme revenu de la plongée en apnée la plus profonde de l'histoire, moins 139 mètres, à la seule force des palmes, mais plongée qui faillit lui coûter la vie. Guillaume Néry, qui a battu à 4 reprises le record du monde d'apnée en poids constant, fait paraître chez Artaud Nature Aquatique. Bonjour, bienvenue cher Guillaume.
Bonjour.
Alors Guillaume Néry, l'irrésistible envie de respirer, l'irrésistible besoin de respirer, il est inscrit en l'homme, c'est sa nature. Que cherchez-vous dans l'obscurité liquide, au-delà des profondeurs, toujours plus loin, toujours plus bas, là où on ne respire pas?
C'est un peu le questionnement de toute ma vie, de toute ma quête. Je pense qu'il y a des raisons multiples qui m'ont amené sur ce chemin-là et qui continuent aujourd'hui de me maintenir dans cette passion, dans cette fascination de cet autre monde. Donc je pense qu'au départ, c'est une idée, une envie d'explorer l'inconnu.
Ouais.
Je pense que c'est ça le point de départ. Cette fascination d'aller là où pas grand monde va. quand on bat un record, on est même le seul à y aller.
Voilà.
Et je pense que ça, voilà, c'est quelque chose qui a toujours fait partie...
Dans le ventre liquide de la mer. Mais alors justement, à 130 mètres sous l'eau, on est englouti dans une noirceur liquide. On devine même plus la lumière en surface.
Alors, ça dépend où on plonge, mais il reste encore un peu de luminosité. Donc, ce n'est pas le noir total, c'est une espèce d'obscurité bleue. On devine encore le bleu, mais il est sombre.
Ouais.
Et oui, c'est un endroit... quand on regarde de l'extérieur et qu'on met des mots sur ce que représente cet univers-là, effectivement, c'est extrêmement hostile. C'est froid, c'est sombre, la pression est énorme. Mais pour autant, ce que je vais rechercher, c'est un moment où j'arrive à me faufiler là-dedans. Et
c'est un moment de transcendance.
Ouais, arriver à être parfaitement bien, c'est ce qui m'intéresse. Je ne vais pas avec l'âme d'un guerrier ou
oui,
l'âme de la conquête.
Vous n'êtes pas un trompe-la-mort.
Ah non, non.
Ça,
non.
Vous l'écrivez bien dans ce livre, Nature Aquatique. Mais alors, Guillaume Néry, est-ce qu'il y a une faune marine à 130 mètres de profondeur, une faune qu'on peut croiser et qui peut perturber, déconcentrer l'apnéiste, comme par exemple les cachalots ou bien les baleines à bec de cuvier qui remontent des profondeurs? En préparant l'émission, j'ai vu qu'il y en a plein en Méditerranée où vous plongez souvent.
Alors, quand je plonge, je suis vraiment dans une ouverture du regard vers l'intérieur. C'est-à-dire que, déjà, je ne mets pas de masque. Je plonge avec juste un pince-nez pour éviter que l'eau rentre dans le nez. Et la vision, du coup, est assez floutée, puisque voilà, j'ai pas ce masque sur les yeux. Alors, pour des raisons très techniques, hein, c'est que si j'avais un masque, il y a de l'air entre la vitre et mon visage. Et cet air-là va se comprimer quand je descends. Et donc, je dois en utiliser des poumons pour éviter que le verre ne s'écrase. Bref.
Ouais.
J'évite ce désagrément et donc je plonge sans masque, ce qui fait que j'ai une vision assez floue.
Donc là, c'est presque comme si vous plongiez en vous-même.
Et c'est un voyage intérieur. J'entrouvre les yeux, j'aime regarder ce bleu qui évolue, qui varie. Mais finalement, dans ce grand bleu, en tout cas là où je plonge en Méditerranée, on n'a pas la visite de ces grands mammifères. Ils sont beaucoup plus loin au large.
Ils sont plus loin, d'accord.
Et donc,
parce que vous plongez généralement à combien des côtes?
Alors, j'ai la chance d'habiter donc à Nice. Et juste à côté de Nice, il y a une rade qu'on appelle la rade de Villefranche.
Oui.
Et dont la caractéristique est d'être très profonde. Et finalement, à quelques 300 mètres du bord, on peut avoir 200 mètres de fond. Donc c'est comme un espèce de gouffre. Quand on regarde le relief à l'extérieur, on se rend bien compte, hein, ce sont des montagnes. Ces montagnes plongent dans l'eau et les pentes vertigineuses continuent sous l'eau. Et du coup, on est très proche du bord.
Alors, vous êtes, Guillaume Néry, un apnéiste vertical qui plonge tout droit dans le bleu profond de l'abîme. Donc. Mais il existe des apnéistes en piscine, comme par exemple Arthur Guérin-Boëri, qui en 2016 a parcouru la plus grande distance en apnée, soit 6 fois la longueur d'une piscine de 50 mètres avec sa monopalme, donc 300 mètres sous l'eau, mais il a fait tout ça à l'horizontale. Vous faites ça en mer, donc dans la rade par exemple de Villefranche, tout droit vers les profondeurs. C'est quand même une aspiration vers l'abîme.
Oui. ce que je disais tout à l'heure en introduction, dans la mer et dans cette verticalité, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'inconnu. Je suis en surface et je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vois le câble, donc une espèce de corde le long de laquelle je plonge et qui disparaît dans ce bleu sombre. Et moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Ça fait écho à ce qui me faisait rêver quand j'étais gosse, quand je montais au sommet des montagnes. J'aimais cette idée de me dire qu'au sommet de la montagne, on découvre derrière une autre vallée, on découvre un autre paysage. C'est, je pense, quelque chose qui a toujours animé l'humain.
Et là, c'est la montagne inversée.
Voilà,
Il y a une chose qui m'intrigue, Guillaume Néry. Vous plongez armé d'une seule inspiration, bien sûr. Donc cette dernière, cette ultime inspiration, c'est votre unique carburant. Pour une plongée, par exemple, de 129 mètres, il ne faut pas respirer pendant 3 minutes et 25 secondes. Mais comment on s'y prend pour emmagasiner le plus d'air possible dans ses poumons pour donc pouvoir tenir 3 minutes et 25 secondes? Parce qu'à 129 mètres, personne ne viendra vous chercher.
Alors, on fait énormément de travail, toute la préparation physique, les exercices de... Moi, je fais du vélo, je pédale, je cours dans la montagne, je fais du ski de fond, je fais tout un tas de sports qui développent les capacités respiratoires. Beaucoup d'exercices de respiration à proprement parler, issus du yoga, donc d'étirement pour que la cage thoracique soit la plus souple possible. Et tout ça, ça permet de développer une certaine souplesse de la cage thoracique. Et donc, ça me permet de prendre de plus en plus, avec l'entraînement, de plus en plus d'air dans les poumons. Et en plus, on utilise des techniques, des manœuvres, dont une qui interpelle souvent le spectateur, qu'on appelle la carpe.
C'est ça, la manœuvre de la carpe. Alors, ça consiste en quoi? Parce que de l'extérieur, on voit que vous faites de curieux mouvements de bouche, mais il paraît que ça vous permet de rajouter un litre d'air carrément à ce que vous avez déjà emmagasiné dans votre cage thoracique.
Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu comme un piston. On envoie de l'air, on comprime de l'air dans les poumons. C'est-à-dire que quand je fais ce mouvement de bouche, en gros, je prends de l'air dans la bouche. Et puis une fois que cet air est dans la bouche, je laisse l'ouverture au niveau de la glotte et j'envoie l'air comme une seringue. Hein, quand on appuie, j'envoie comme un piston et j'envoie cet air-là dans les poumons. Et puis après, je refais. Et ainsi de suite. Et toutes ces petites quantités d'air rajoutées.
Donc c'est en plusieurs fois.
Oui, la carpe.
Avec des blocages.
Ça se fait très très vite. Hein.
C'est incroyable. Mais alors, cette unique inspiration avant de plonger, on la démarre combien de temps, justement, avant le saut vers les abysses? On la démarre 20 secondes, 15 secondes, 10 secondes avant?
Oui, c'est à peu près une vingtaine de secondes. Elle est longue. J'essaie de vraiment la faire durer pour pas être... je ne suis pas dans la précipitation quand cette dernière inspiration.
20 secondes avant de plonger, moi qui suis totalement néophyte et pas apnéiste, je me dirais que c'est 20 secondes déjà utilisées et dont j'aurais peut-être besoin quand je serai dans les profondeurs. Vous, cette ultime inspiration, vous la prenez 20 secondes avant d'entrer dans l'eau.
Parce que pendant ces 20 secondes, c'est de l'air et c'est de l'air frais qui rentre et qui ne cesse de rentrer. C'est pas des secondes perdues. Si je me précipite, cette inspiration, elle sera... pas aussi efficace et donc du coup je prends le risque de partir avec moins d'air, donc le calcul ne serait pas bon. Je préfère prendre ce temps, gagner. Vraiment, il y a cette idée dans l'apnée de ne pas se précipiter, d'avoir une forme de lenteur, de maîtrise de chaque mouvement, de chaque geste, garder un métabolisme lent. Et donc, perdre 3-4 secondes, c'est finalement, on les récupère en bien plus derrière dans le relâchement que l'on gagne et dans le calme.
Parce qu'il y a beaucoup plus que de l'oxygène, justement, dans cette ultime inspiration avant de s'enfoncer dans l'autre monde. C'est, lorsqu'on vous voit vous concentrer, respirer, parce que ce sera votre unique carburant. C'est quand même fou. Et puis, il ne s'agit pas que de descendre au plus profond, il faut surtout remonter. Alors, je voudrais savoir, quel est le moment le plus dangereux dans une plongée de 129 mètres au cours de laquelle on ne peut pas respirer donc pendant 3 minutes 25 j'imagine que, bien sûr, la phase la plus dangereuse, c'est la dernière partie de la remontée, non?
Oui. Si on doit parler de difficultés, de limites, en gros, la descente, la principale limite et contrainte, c'est d'arriver à accepter la pression qui devient de plus en plus forte. Et à la remontée, et bah, c'est le temps d'apnée qui s'allonge, et donc les réserves d'oxygène qui diminuent. Et effectivement, quand
et
on
le
arrive...
gaz carbonique qui commence à envahir
le CO2, donc le dioxyde de carbone qui augmente. Ça n'a pas forcément d'effet dangereux, c'est juste désagréable. Par contre, oui, dans les 20-30 derniers mètres, on a utilisé une grande partie de notre oxygène, et donc c'est là où on doit avoir une certaine vigilance, c'est là où sont concentrés tous les efforts de sécurité.
Et c'est là où le mental, en fait, entre en action, parce qu'on peut ne plus du tout avoir d'oxygène, mais tenir quand même par la force de l'esprit. Encore 15 mètres, encore 10, 5 mètres
Non, c'est souvent l'image, l'idée que l'on en a, mais le mental n'est pas dans une forme de lutte. Le mental, il est prépondérant pendant toute la plongée pour garder un état de calme,
ouais.
Quel que soit ce que l'on va ressentir. Donc, s'il y a la pression qui s'exerce, le mental de quelqu'un de néophyte peut-être s'emballerait face à cette contrainte extérieure. Nous, on reste dans un espèce d'état de calme. Et pendant la remontée, l'envie de respirer, le CO2 qui s'accumule, bah, tout ça, ce sont des informations extérieures. Mais
oui.
Finalement,
il paraît d'ailleurs que vous regardez jamais, vous levez jamais la tête pour regarder vers la surface l'eau et apercevoir la lumière. On pourrait se dire, ah, ça y est, je suis presque arrivé. Non, si vous regardez et que vous voyez qu'il reste encore un sacré bout de chemin à parcourir, vous pouvez paniquer, c'est ça?
Oui, c'est toujours pareil. Hein, dans la vie, le malheur vient des espoirs déçus. Et donc, du coup, quand on nourrit trop d'attentes, y a ce risque de la déception. Alors, dans le quotidien, c'est plus ou moins grave. Sous l'eau, ça peut être compliqué d'attendre cette surface, de la vouloir, et puis finalement de ne pas la voir si on la cherche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rester concentré sur ce que l'on est en train de faire, comme si finalement il nous restait une espèce de remontée infinie. Et ça permet vraiment de rester ancré dans le présent. C'est une leçon, je pense, très intéressante d'ailleurs pour les moments de vie un peu compliqués.
Bien sûr.
Pense tout de suite à la porte de sortie, alors que finalement, des fois, le meilleur moyen de passer ces moments difficiles, c'est de rester ici et maintenant.
Mais parce qu'on va l'évoquer bien évidemment tout à l'heure, cet accident absolument hallucinant dont vous êtes revenu. Et tout ça, c'était à cause d'une erreur qui a failli être funeste, enfin qui était funeste et qui a failli être fatale, faite par l'équipe d'organisation et de juges. Mais ce que vous avez vécu la dernière fois que vous avez tenté un record du monde, vous pensiez que c'était 129 mètres, en fait on vous a fait descendre sans s'en rendre compte à 139 mètres. Ce que vous avez vécu dans la remontée, à la toute fin de la remontée, avant de tomber en syncope, c'est carrément assimilable à une noyade.
Au final, c'est une forme de... Oui, une noyade, c'est ce moment où on perd connaissance et où personne n'est là pour nous récupérer. Et quand le réflexe inspiratoire revient, on inhale de l'eau. Alors nous, en apnée, la sécurité et l'équipe est là pour éviter justement cette noyade. Donc, quand un accident arrive, alors il faut surtout pas penser que c'est quelque chose de commun. Quand on plonge, on met tout en œuvre déjà d'un point de vue personnel pour avoir énormément de marge avec nos limites. On le disait tout à l'heure, je suis pas un trompe-la-mort, c'est-à-dire que je j'ai pas un accident une plongée sur deux, c'est très rare.
Ça n'était pas du tout de votre fait.
On
l'expliquera tout à l'heure.
Tout à fait. Mais là, en gros, si on se rapproche de cette limite à un moment donné, on appelle ça en anglais le blackout, c'est-à-dire qu'on perd conscience, et donc là l'équipe de sécurité intervient pour nous ramener tout de suite à la surface, et puis là quand on revient...
Ce qu'on appelle les anges gardiens.
Voilà, moi j'aime bien les appeler les anges gardiens, tout à fait.
Et ils ont fait le job, les anges gardiens. Guillaume Néry, vous avez battu à 4 reprises le record du monde d'apnée en poids constant, le dernier en date en descendant à moins 126 mètres sous l'eau par la seule force des palmes, enfin je dis des palmes, mais en fait c'est une monopalme, mais vous confiez dans ce livre, moi je suis un peureux. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. Vous voulez dire qu'enfant, vos parents vous ont élevé dans la peur de l'inconnu ?
Non, alors je veux surtout pas pointer du doigt, remettre en question.
On ne remet pas en question leur éducation, non, mais non. Simplement, les parents sont tous aimants, veulent préserver leurs enfants. Autour de vous, ils voulaient que tout soit safe. Ils voulaient un contrôle absolu. Vous êtes enfant unique et bien évidemment, vos parents vous aimaient si fort qu'ils anticipaient tout ce qui pouvait être dangereux.
Tout à fait. Il y avait une volonté de contrôler absolument tout et voilà une espèce de volonté de tracer une route, une voie pour cette espèce de quête de sécurité, à la fois sécurité dans le travail, sécurité dans le quotidien et voilà, mes parents étaient vraiment dans cette optique-là. Pourtant, ils m'offraient des parenthèses de nature, on allait tout le temps à la montagne, etc. Mais c'était toujours dans un cadre assez contrôlé.
Ouais.
Et je pense que voilà, avoir grandi dans cet univers très sécurisé m'a offert d'excellentes bases, on va dire une forme de stabilité psychique, psychologique, mais en même temps a nourri un espèce de rêve d'aventure, de rêve de partir, d'exploration. Et c'est vrai que c'est pendant l'enfance que sont nés ces fantasmes de faire des grandes traversées. Je rêvais de traverser des continents à pied. Je rêvais de pouvoir vivre un peu comme Tintin, dont je lisais tous les tomes en permanence. Je rêvais de cette aventure-là. Et quand j'ai découvert l'apnée...
Mais vous leur racontiez cette soif d'aventure à vos parents? Je précise, votre père, il était technicien en médecine nucléaire. Votre maman, professeure de mathématiques. Vous êtes fils unique. Bon, parce qu'on parle de cette sécurité absolue, parfois la quête de sécurité absolue, effectivement, elle engendre la peur. On a tendance à confondre le bonheur avec le risque zéro. Vous rêviez d'aventure, vous leur disiez ou pas?
Oui, j'essaie de me rappeler ce que je leur disais, mais... Oui, enfin, en tout cas, j'avais des centres d'intérêt et des aspirations orientées là-dessus. Mais après, j'étais un peu aussi coincé dans un espèce d'idéal, qui était l'idéal de mes parents.
Oui, puis il fallait faire de bonnes
chemin,
études,
voilà,
surtout.
Tracer les bonnes études, rentrer dans un moule, voilà. Rentrer dans un cadre. Et c'est vrai que très tôt, finalement, cette idée de ce cadre, de ce moule, j'arrivais pas à m'y retrouver, j'arrivais pas à envisager un espèce de futur dans lequel j'allais être bien.
Alors, le choix de l'apnée, Guillaume Néry, qui est devenu plus qu'un sport, presque une philosophie de vie, eh bien, il paraît que c'est parti d'un affront, une sorte d'égratignure de l'ego, l'année de vos 14 ans, quand vous rentriez d'un cours de tennis avec votre copain Eric. En fait, c'est parti le plus bêtement du monde, avec une espèce de petit concours entre deux potes, le genre de choses que font souvent les enfants, parce qu'on s'amuse souvent à faire comme ça, on est à l'arrière de la voiture, les parents, le père conduit, on part en vacances par exemple, et puis à l'arrière on s'ennuie un peu, tiens, on fait un concours d'apnée, lequel tient le plus longtemps. Sauf que vous avez perdu, et Eric a gagné.
Ah oui, au final, au départ, c'est une histoire complètement banale. Sauf que ça a égratigné un peu mon ego, ça a égratigné ma soif de défi, de challenge, de performance. Et je me suis dit, bon, la prochaine fois, je vais essayer de faire ça chez moi. Et puis comme ça, la prochaine fois, je le battrai.
Alors, vous êtes entraîné tout seul, en apnée statique, justement, dans votre chambre. Mais vous avez très vite progressé. Vous avez mis au point une technique empirique, comme ça, en tâtonnant, quand vous y êtes pris.
J'avais pas vraiment de technique. Je me souviens, j'étais assez intéressé par la science naturelle comme matière à l'école. En plus, c'était un moment où on étudiait le corps humain, les poumons.
Ouais.
Et donc, j'allais chercher des informations. Ah tiens, la peau respire. Alors, je me souviens, j'ouvrais les fenêtres et je me mettais complètement nu dans mon lit.
Pour que la peau respire.
En me disant, si la peau respire, je vais gagner quelques secondes. Et voilà, c'était, c'était devenu un peu une obsession, cette histoire.
Pendant que Eric, lui, continuait de faire du tennis.
Oui, moi aussi, on se retrouvait, mais lui,
il
avait complètement oublié. Après, voilà, c'est un peu mon tempérament. Quand j'ai un truc qui me tient à cœur, j'y vais, je déploie absolument tout.
Alors, vous avez tout déployé et ayant l'intuition peut-être qu'une voie à contre-courant pouvait se dessiner pour vous, avec un sport en marge des normes, vous avez rencontré une tribu d'explorateurs de l'apnée, la bande de l'école niçoise. Tribu qui est devenue votre tribu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez passé tout votre temps libre avec eux.
C'est ça.
À plonger dans la rade de Villefranche.
Exactement. C'est un coup de chance. Hein. J'ai eu de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Parce que cette passion serait née à n'importe quel autre endroit en France, et ben, bon, ben, elle se serait éteinte.
Si vous aviez effectivement grandi dans le Cantal, ça aurait été compliqué.
Exactement. Donc là, il y a proximité de la mer, mais en plus de cette proximité de la mer, il y avait les bonnes personnes.
C'est ça.
Et à l'époque, aujourd'hui, les clubs d'apnée, ça a explosé depuis 10-15 ans. En Paris, région parisienne, je crois qu'il y a plus de 30 clubs d'apnée. C'est énorme. Là où il n'y a pas la mer. À l'époque, il y avait...
Mais ils font de l'apnée statique en piscine, alors.
Ou de l'apnée dynamique,
donc
des longueurs, dans l'idée de progresser, parce qu'on est bien dans l'eau aussi, en piscine, avec, je pense, toujours cette idée de dire l'été, au moment des vacances, pouvoir aller aussi en mer. Mais en tout cas, ces clubs purement apnée en mer dans les années 90, il n'y en avait pas. Il y en avait un, c'était à Nice. Et voilà, je les rencontre. Et puis là, ce défi dans le bus commence à prendre un peu de consistance.
Oui.
Et la rencontre d'autres qui ont cette même envie, ce même désir, se met un peu à légitimer.
Et qui partagent avec vous.
Et voilà, et d'un coup, je suis plus tout seul dans mon coin, dans ma chambre.
Et vous rencontrez des professeurs.
Et je rencontre
comme celui qui va devenir votre maître,
voilà,
Claude Chapuis.
Claude Chapuis.
Voilà.
Je rencontre d'autres... quelques champions en herbe qui ont une dizaine d'années de plus que moi, qui sont dans la vingtaine, 25 ans, qui sont doués, qui progressent, ils deviennent un peu mes modèles, notamment Loïc Leferme, qui a été multiple recordman du monde, qui devient un peu un guide.
On est en fait juste après le tsunami du Grand Bleu, n'est-ce pas, qui est sorti, je crois, en 88. Alors, le film de Luc Besson, justement, Le Grand Bleu, en hommage à Jacques Mayol, hein, le premier homme à avoir atteint 100 mètres sous l'eau en apnée, bah, ce film, Guillaume Néry, j'imagine qu'il a suscité des vocations, mais j'ai le sentiment que vous n'aimez pas trop l'esprit du film.
Non. Non, c'est pas que j'aime pas l'esprit du film, c'est que d'un côté on doit énormément au Grand Bleu parce que c'est grâce au Grand Bleu que tout ça s'est né. Hein. Ce club d'apnée à Nice et tous ces passionnés qui se sont retrouvés, c'est parce qu'à un moment donné il y a eu le Grand Bleu et puis l'envie de surfer un peu sur cette espèce de tsunami comme vous disiez et qui ont eu envie de fédérer notamment sous l'impulsion de Claude Chapuis. Et donc tout ce mouvement, cet élan de l'apnée moderne telle qu'elle existe, ça a eu comme point de départ le Grand Bleu. Donc on doit beaucoup au Grand Bleu. Par contre, le film a véhiculé et aujourd'hui encore, voilà, je réponds à des questions. Alors, ce sont des questions maintenant de cinquantenaires qui ont vu le Grand Bleu alors qu'ils avaient 20 ans.
Voilà.
Et qui sont restés marqués, ancrés par ce que montrait ce film.
Oui, c'est-à-dire pour eux, l'apnée, c'est une histoire de compétition à la vie et à la mort.
C'est une histoire de compétition à la vie et à la mort.
Ce qui n'est pas du tout le cas pour vous.
Et en plus... cette compétition montrée dans le Grand Bleu, elle est faite par deux personnalités assez particulières.
Ouais.
Ce sont deux êtres complètement en marge de la société, qui mènent une vie totalement déconnectée. Et les deux, quand même, les deux héros meurent au final, emportés par leur quête. On a presque l'impression que ce n'est pas des accidents. C'est à un moment donné le dessin qu'ils voulaient
suivre. Le personnage joué par Jean-Marc Barr, on a l'impression en fait qu'enfin il touche du doigt le destin, le Graal tant attendu quand... il disparaît dans les profondeurs.
Quand il disparaît, tout à fait. Et donc, évidemment, c'est un film, donc c'est très bien, c'est la fiction, et c'est merveilleux que ce film se soit ancré de cette manière-là. Toutes les grandes histoires, comme ça, ont un côté dramatique. Mais derrière, c'est vrai que quand nous, on pratique, on a une approche qui est complètement différente.
Vous êtes des épicuriens, c'est-à-dire que la pratique, elle est positive.
Bien sûr.
On est
comme tous les pratiquants, comme les surfeurs, comme les grimpeurs, comme toutes les passionnés d'activités de pleine nature. On y va pour se sentir vivant, mais on aime notre vie sur Terre.
Je continue, Guillaume Néry, de dérouler le fil de votre histoire, parce que donc vous entraînez, vous progressez sans cesse. Et j'arrive à ce fameux 31 août 2002, où à tout juste 20 ans, eh bien vous battez votre premier record du monde en remontant en apnée des abysses, donc la fameuse petite plaquette sur laquelle est inscrit moins 87 mètres. Alors c'était en rade de Villefranche. Claude Chapuis, votre maître, et puis toute la bande de copains étaient sur zone depuis 5 heures du matin pour vraiment tout installer. Et surtout, vos parents assistaient pour la première fois à une plongée de leur fils, c'est incroyable. Le jour où vous battez votre premier record du monde, c'est la première fois que vos parents viennent vous voir plonger.
Ouais, ouais, ouais. Bon, ça n'a pas été facile à gérer, ni pour eux, ni pour moi.
Ça a rajouté de la pression pour
vous.
Oui,
j'ai réussi à faire abstraction, évidemment, mais quand même, c'est quelque chose, puisque forcément, toute leur inquiétude, leur angoisse, c'est cristallisé, et je le ressentais, mais bon, c'est normal, hein. Je suis papa, moi aussi, donc j'imagine et je comprends bien cette crainte qu'on peut avoir, mais oui, effectivement, c'était pour eux un baptême musclé, on va dire. Mais heureusement, quoi, la plongée s'est très bien passée.
Guillaume Néry, nous sommes à Chypre, le 8 septembre 2015, le ciel est d'un rouge opaque à cause d'une tempête de sable. Mais tout va bien, très très bien pour vous dans les profondeurs de la mer, puisque vous venez de réaliser la deuxième apnée la plus profonde de l'histoire en descendant et remontant juste en palmant. 3 minutes et 19 secondes pour descendre à moins 126 mètres. Alors et ben vous vient une envie. L'envie de vous inscrire 2 jours plus tard pour, pourquoi pas, moins 129 mètres, c'est ça ?
Exactement. C'était une petite compétition qui précédait les championnats du monde. Et donc, j'ai cette possibilité, sur un dernier jour de tentative, de pouvoir continuer sur ma lancée. Comme les 126 mètres, c'était quand même très bien passé et que tous les compteurs étaient au vert, je décide d'aller 3 mètres plus bas pour reprendre un record du monde. Le dernier, avant celui-ci, je l'avais battu en 2008, donc ça faisait 7 ans que je continuais à progresser, mais que le record était un peu loin devant.
Ouais.
Et là, je me retrouve dans cette possibilité de pouvoir le reprendre.
Vous sentez que vous êtes prêt, c'est bon.
Oui, oui.
Ça
en plus, c'était pas du tout une espèce de quête aveugle, une espèce de grand saut à la vie, à la mort. Non, c'était la suite logique, finalement.
Oui, c'est ça, c'est 3 mètres plus profond. Sauf que, quand vous vous réveillez, donc, ce 10 septembre, vous avez un étrange pressentiment le matin.
Oui, j'avais, pour être honnête, et d'ailleurs tout le livre, tout le Nature Aquatique commence un peu par le partage de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, y compris avant les 126 mètres, même si la plongée s'est merveilleusement bien passée, il y avait quand même des choses du passé qui remontaient, des angoisses, probablement
comme par exemple
le fruit, la mort de Loïc Leferme,
votre ami.
Mon ami, qui est décédé. Le 11 avril 2007, qui a laissé une empreinte forte dans mon parcours et dans mon histoire. Un ou deux accidents, autres accidents qui ont touché des gens de mon entourage dans la communauté de l'apnée et qui finalement ressurgissent quelque part et qui me mettent face à cette espèce de réalité quand même du risque que je prends quand je plonge très profond.
Mais vous ne renoncez pas ce jour-là.
Mais
vous y allez quand même.
Mais
vous allez monter sur le bateau.
C'est un dialogue finalement intérieur entre une forme de raison. Donc la raison, elle met sur le papier tout ce qui a constitué ma progression, tout ce que sont les éléments, j'allais presque dire scientifiques.
Oui, c'est ça.
De là où j'en suis. J'ai eu une progression assez linéaire, j'ai réalisé 126 mètres, tout était paramétré, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas la 129 mètres.
3 mètres plus bas.
Voilà.
Alors, ce jour-là, le 10 septembre, trois juges ont réglé le câble officiel à 129 mètres. Câble qui va être suspendu dans le bleu, à la verticale, et lesté pour rester droit. Trois juges dont la concentration, pour mesurer la distance à parcourir le long du câble, doit être total, bien sûr. Alors, vous prenez votre ultime inspiration avec la fameuse technique qu'on a expliquée tout à l'heure. Et puis, vous plongez. Au fait, pourquoi vous plongez avec une monopalme et pas deux palmes ?
Bon, ça vient d'un moment donné, dans l'histoire de notre discipline, on a commencé à regarder ce qui se faisait dans le milieu naturel. Tous les mammifères marins qui descendent profond, que ce soit les baleines, les cachalots, les baleines de Cuvier, et tous les, on va dire, les champions d'apnée en profondeur, tous ont cette nageoire caudale et ce mouvement d'ondulation. Et donc, on s'est inspiré dans le monde de la natation avec palmes. C'est une discipline qui existe. Les records de vitesse sont battus avec des monopalmes. Et donc, on est allé piocher un peu là-dedans. Et quand les monopalmes commencent à être vraiment utilisés dans les années 2000, dans l'univers de l'apnée, après, tous les records sont battus en monopalme.
En monopalme.
Parce que c'est plus efficace.
D'accord. Alors, donc, vous descendez à partir, on va dire, plus bas que 30 mètres, vous commencez à vous laisser glisser, dans l'obscurité ondoyante. Mais soudain, Guillaume Néry, cette glissade vers le fond vous semble curieusement un peu longue. Car vous savez parfaitement à chaque seconde où vous en êtes. Et vous devriez être arrivé au bout du câble. On dit bien que 129 mètres étaient prévus en dessous de la surface de l'eau. Mais le bout du câble, il n'est toujours pas là. Donc, vous songez à quoi ?
Oh là là, ça va vite. Hein. Quand on plonge comme ça, on ne pense pas vraiment. Disons qu'on est juste concentré sur tout ce qui se passe. On a comme un logiciel qui tourne, qui analyse le temps qui passe.
Oui, parce que personne ne peut venir vous aider à cette profondeur. Personne.
Ah non, non, là, on est. Alors, on n'est pas totalement abandonné. Moi, je suis relié au câble. Si jamais il y a un problème en bas, on peut me remonter. mais à ce moment-là, voilà, je suis très concentré. J'ai une espèce de conscience, effectivement, de à peu près où je suis, même assez précise, hein, avec 80, 90, 100 mètres, quelque chose. Il y a tout un tas de.
Donc, vous sentez bien que. Là, il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Alors, voilà, 100 mètres, ça va, 110, 120. Et puis, à un moment donné, il y a un truc qui me fait dire, bon, là, je devrais arriver. Mais comme un peu comme à la remontée, je ne lève pas la tête pour regarder où est la surface, quand je descends, c'est pareil. Je ne lève pas la tête pour voir où est le plomb. Le plomb, c'est le bout du câble.
Mais vous dites lever la tête, alors qu'en fait, il est en bas.
Oui, il est en bas. Il est en bas, on va dire redresser la tête pour regarder. Ouais. Et je me dis, bon, bah là, ça y est, je dois arriver. Je dois arriver, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et là, je n'ai pas le temps d'échafauder des scénarios. Donc, je me dis juste, bon, bah, c'est un record du monde. Je vais là où je ne suis jamais allé. C'est normal que ça me paraisse plus loin.
Voilà. Donc, vous récupérez enfin la précision.
Oui, à un moment donné, hop,
voilà,
je vois.
Preuve que vous êtes bien descendu au bout du câble. Et comment vous vivez la remontée ?
Alors, j'ai plus vraiment de souvenirs précis de la remontée parce que j'ai perdu connaissance à quelques mètres de la surface. Et
oui,
ça a un peu créé.
9 mètres, paraît-il, de la surface.
Oui.
En fait, vous avez fait 20 mètres de plus.
C'est ça, j'ai fait 20 mètres de plus que ce qui était prévu. Donc forcément, c'était un peu compliqué de pouvoir penser que j'allais rejoindre la surface sans avoir un problème.
Donc, mais alors, à 9 mètres de la surface de l'eau, vous êtes vu mourir juste avant la syncope ?
Alors, j'avais déjà fait des syncopes dans le passé, quelques-unes, rares, mais quelques-unes. Et en fait, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. On est dans une forme de lutte, sur la fin, quand on approche de la limite. On essaie de garder le calme, on essaie de repousser cette envie de respirer. Et puis à un moment donné, on bascule, mais tout ça, ça efface un peu les souvenirs. Donc je ne peux même pas décrire ce qui se passe dans les 5, 10, 20 dernières secondes, parce que ça a été finalement, c'est parti dans les couloirs de l'oubli en même temps que la syncope.
Alors, vos anges gardiens viennent vous récupérer, on vous hisse sur le bateau. Bon, vous étiez bien prêt physiquement et mentalement pour établir le record d'une plongée en apnée à 129 mètres de profondeur. Sans doute à 131, à 132 mètres, pas à 139 mètres, parce que c'est bien une erreur, en fait, qui a été commise par les juges et les organisateurs. Ils sont trompés dans le réglage du câble. Câble qui était marqué avec, alors là c'est absolument hallucinant, j'apprends ça en lisant votre livre, passionnant, Nature aquatique, câble qui était marqué avec des bouts de scotch d'électricien pour mesurer les distances sous l'eau. Excusez-moi, mais c'est inouï d'amateurisme. L'accident devait arriver des morceaux de scotch d'électricien qui servent de marqueur. Dites-moi que ça a changé depuis.
Alors, ça a beaucoup changé, mais j'ai été très surpris de voir sur certaines compétitions qu'on utilisait encore.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, avec bon, des procédures de contrôle un peu plus appuyées. Mais oui, nous à Nice, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais marqué nos câbles avec des scotch.
Vous le marquez comment ?
Ça reste très amateur. Hein, mais on a des feutres indélébiles et puis on marque, on remarque le câble. Ça reste 10 ans sur ces câbles et on ne peut pas se tromper. Le câble est parfaitement marqué.
Non, parce que le bout de scotch qui forcément va finir un jour ou l'autre, et là c'est le jour de justement de la compétition et du record du monde, le bout de scotch qui se détache, personne parmi les juges et tous les organisateurs d'ailleurs ne s'en rend compte, parce que c'est quand même irréel dans une discipline comme celle-ci où un apnéiste met sa vie en danger, on vérifie 15 fois plutôt qu'une. Là, ils bavardaient, ils n'étaient pas concentrés sur ce qu'ils avaient à faire, mais comment est-ce possible ?
Oui, bah, j'ai passé beaucoup de temps après à essayer de comprendre. Et voilà, je mets ça sur le fait de mélange d'inattention, de concours de circonstances. Souvent, quand un accident grave arrive, ça se voit pas comme un nez au milieu de la figure. C'est une somme de petites coïncidences qui fait que voilà.
Mais ils étaient nombreux sur le bateau.
Oui, oui, ils étaient nombreux.
Parce qu'en fait, ils ont saboté votre record, puisque forcément, ce record du monde, le cinquième à 129 mètres, vous l'auriez parfaitement réussi, puisque vous êtes même revenu de l'enfer en étant descendu à moins 139. Donc, ils ont saboté votre record et ils ont failli vous tuer.
Ah oui, oui, bah évidemment, il y a une responsabilité de leur part, mais encore une fois, aujourd'hui, j'arrive même pas du tout à être dans la rancœur où je leur en veux pas, parce que voilà, l'erreur est humaine et il faut accepter que ça fait partie du jeu. Effectivement, c'était pas du tout professionnel et ce que j'espère, c'est que voilà, c'est que ça ne se reproduira pas.
En fait, c'est quand ils ont vu le chiffre 139 inscrit sur votre montre, à votre poignet, sorte de, en fait, montre ordinateur que vous portiez sur vous, qu'ils ont compris le drame.
C'est moi qui ai compris d'abord.
Ah, c'est vous qui l'avez vu.
Oui, c'est moi d'abord qui ai regardé en essayant de comprendre comment j'avais pu avoir cet accident, comment j'ai pu perdre connaissance alors que normalement ça aurait dû marcher. Et donc sur l'ordinateur, il est inscrit la profondeur et le temps d'apnée. Donc je voulais voir combien de temps ça avait duré cette histoire.
Et ça a duré combien de temps ?
Ça a duré 3 minutes 50, plus longtemps que prévu. Quoi. Mais en fait, j'ai même pas trop regardé le temps. J'ai vu ce chiffre de profondeur qui au début me paraissait complètement irréel. Je me suis même dit que l'ordinateur avait un problème. J'y ai pas cru au début. C'est quand j'ai vu en même temps l'agitation autour que l'organisation s'est mise à comprendre qu'il y avait eu un problème.
Est-ce que depuis Guillaume Néry, des gens sont descendus aussi profond que vous ce jour-là, à moins 139 mètres au-dessous de la surface?
Non,
de
non, en palmant comme ça, de cette
jamais
manière.
Jamais,
cette manière-là. Non, 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 le record du monde, il a un peu évolué. Donc, il était à l'époque de 128. Moi, je tentais 129. Et donc, on était en 2015. Et aujourd'hui, en 2022, le record est à 131.
Oui.
Donc, il a pris 2-3
Donc,
a pris
vous,
deux,
vous êtes
mètres,
toujours, quoi. En fait, l'homme qui est descendu le plus près des abysses.
Oui, si on veut. Bon, même si c'est pas... Voilà, je ne le considère pas comme un record. Hein. C'est malgré moi que c'est arrivé, cette histoire. Mais...
L'organisation aurait pu être radiée hein, à la suite d'une procédure. Mais alors, donc, quelques heures après... Vous êtes réveillé de cette syncope, bien évidemment à cause de la détresse très avancée d'oxygène. Bah vous annoncez à tout le monde, bon c'est fini, j'arrête tout. C'est ça, j'arrête la compétition.
Oh oui, là ça a été un électrochoc. Disons que j'avais aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, un peu cette espèce de pressentiment. Il y avait une sorte d'inquiétude qui était là, qui était présente. Et puis là, il y a l'accident qui vient mettre en forme finalement toutes ces petites angoisses que je n'avais pas avant. Et donc ça fait trop. Je me dis, bon, ben là, c'est bon. Là, c'est le moment d'arrêter de vouloir aller chercher le petit mètre de plus. Et donc, voilà, dans cet instant-là, de manière assez brutale, je dis, j'arrête. Plus de compète, plus de records. Alors, les records, effectivement, c'est toujours d'actualité. Mais quelques années après, j'ai recommencé à faire des petites compétitions, mais dans une approche complètement différente. Ça fait 2 ans que...
C'est-à-dire ?
Aujourd'hui, déjà, je fais une autre discipline. Je descends en palmant, mais j'ai remis les bipalmes, c'est-à-dire des palmes classiques. C'est une discipline qui aujourd'hui existe en tant que telle. Et c'est comme si c'était quelque chose de nouveau, j'y vais avec une certaine fraîcheur.
Ouais.
Et j'y vais vraiment dans une progression de rythme très personnelle. Le record du monde est plus profond, je ne cherche pas à l'atteindre.
Parce que quand même, dans votre livre, vous avouez, bon, franchir les 100 mètres en apnée, vraiment, ça procure une douce félicité qui m'enlace. Une douce félicité, c'est l'ivresse des profondeurs, c'est hypnotique, donc ça peut être effrayant. Et à moins 120 mètres, par exemple, vous n'avez en apnée que quelques dizaines de secondes d'autonomie pour remonter avant que vos poumons hurlent. Alors, je voudrais comprendre, vous n'avez jamais ressenti, la question va peut-être paraître ridicule, mais tant pis, je la tente, vous n'avez jamais ressenti dans ce contexte, quand vous êtes à moins 120 mètres de profondeur, l'envie soudain folle, absurde bien sûr, mais irrépressible de respirer.
Non, jamais à ces profondeurs-là, on a d'un
coup... On sait bien que ça peut mais avoir à lutter, résister contre quelque chose qui est inscrit en l'homme depuis toujours avec ses poumons, puisqu'il n'a pas de bronchie.
Je me prépare vraiment toute l'année et depuis de nombreuses années à apprivoiser petit à petit ces profondeurs-là. Et c'est vraiment, ça se fait étape par étape. Là, en ce moment, par exemple, je replonge. Et avec dans l'idée d'aller en juin, juillet, être dans la zone des 100 mètres, 110 mètres, avec mes bipalmes. Tout l'hiver, je plonge dans les 50, 60 mètres. C'est une profondeur que je maîtrise totalement, absolument. Et,
oui, oui,
et
ce que vous appelez les profondeurs récréatives.
Exactement, c'est presque comme une promenade.
Voilà.
Et là, il y a quelques jours, j'ai plongé à 80 mètres. Et 80 mètres sont des profondeurs que je maîtrise. Mais je ne m'aventurerai pas à 85 mètres si les 80 mètres ne sont pas totalement maîtrisés. Et donc, du coup, je garde toujours le contrôle sur ce que je fais.
Guillaume Néry, quand on est un sportif de l'extrême, trouver la compagne qui accepte une vie hors des balises, hors des normes, avec une transcendance, la quête perpétuelle du dépassement, et au bout, bah, le risque d'en mourir, ça ne doit pas être si simple. À moins, bien sûr, qu'elle ne pratique le même sport. C'est compliqué de vivre aux côtés de Guillaume Néry.
Non, parce que je pratique cette activité-là. Vraiment de manière lucide, contrôlée, encadrée. C'est vrai qu'il y a cette vision de l'extérieur, quand on ne connaît pas, d'une espèce d'activité totalement hors de contrôle et qui paraît être extrême et très dangereuse. Or, moi qui suis vraiment la tête dedans et plongée dedans, j'ai un regard, j'ai l'impression un peu plus réaliste et lucide sur les vraies activités qui comportent un risque sur lequel on n'a pas de maîtrise. Et notamment, toutes les activités en pleine montagne, tout ce que font les alpinistes, tous ceux qui sont en rapport avec l'élément que l'on ne peut pas maîtriser, avec cette grande part de la nature que l'on ne maîtrise pas. Là, pour moi, il y a une vraie part de risque que l'on, à un moment donné, sur laquelle on ne peut pas avoir de contrôle. Mais nous, en apnée, il y a ce contrôle sur le corps qui est important et qu'on apprend et qu'on apprivoise avec les années. Mais l'élément en soi, il n'y a pas de surprise. La mer reste...
Elle n'a pas passé à force neuve tout à coup.
Exactement.
En une minute.
Voilà, sous l'eau, l'état de la mer reste très stable. Et donc, du coup, c'est quand même un élément extrêmement important de savoir qu'on maîtrise ce côté-là. Alors, effectivement, on s'éloigne très loin de la surface. On est très loin de cette inspiration qu'est la vie. Mais quand même, tout est très bien paramétré. Et puis, voilà, je suis quelqu'un avec une personnalité, on le disait tout à l'heure. Je suis d'un naturel à être assez peureux au final à la base.
Et donc, j'adore du coup, quand vous dites ça.
Du coup, j'aime pas du tout cette idée de pas être prudent.
Mais en tout cas, vous êtes un solitaire. Parce que plonger comme vous le faites, c'est aussi plonger en soi. Et en plus, vous partez seul, sac à dos, en Antarctique. Vous partez seul, sac à dos, en Afghanistan. Pourquoi seul ?
Je pars pas si souvent que ça seul.
Vous l'avez fait.
Oui.
Mais par exemple, l'Afghanistan.
J'étais pas seul. Hein.
Ah, bon.
Ah non, j'étais pas seul. Je suis parti d'ailleurs avec Loïc Leferme. Et c'était au sein d'une.
Ami qui est décédé.
Mon ami qui est décédé il y a 15 ans maintenant. Et avec Loïc, on a fait partie d'une expédition pour aller plonger dans des lacs. Des lacs sacrés en altitude.
Mais l'Afghanistan, c'était pour plonger encore, mais cette fois-ci dans des lacs sacrés.
Exactement, oui.
Alors, l'expérience, l'aventure.
J'étais jeune, hein, c'était juste après mon premier record du monde, c'était un de mes premiers voyages en dehors d'Europe, c'était en 2003. C'était dans un moment où l'Afghanistan était dans un calme relatif.
Il n'y avait pas encore mainmise des talibans.
Le pays avait été libéré des talibans après 2001. Et il y a eu cette phase un peu
intermédiaire.
Un peu de respiration dans les années 2002-2003. Et nous, on est allé plonger là-bas.
Sinon, on est facilement arrêté pour espionnage là-bas.
Ah oui, non, mais aujourd'hui, ça serait impossible. Et donc, ces lacs sont extraordinaires. Ils sont des lacs sacrés qui étaient réputés sans fond.
Très haut dans les montagnes.
Oui,
expliquez-nous. Oui, dans quel genre de paysage ?
C'est des paysages. On est sur le bord de l'Himalaya. Donc on est sur des hauts plateaux. On a plongé à plus de 3000 mètres. Le massif s'appelle l'Hindu Kush. Donc ce sont des massifs qui dominent à 5000 mètres. Nous, on était sur des plateaux à 3000 mètres, assez désertiques, mais au milieu.
Et les lacs ont quelle profondeur à 3000 mètres d'altitude ?
Là où on est allé plonger, c'était pas si profond que ça. On a mis fin, malheureusement, à ce mythe des lacs sans fond.
Parce que les lacs sans fond, le fond, il arrive à combien ?
On est allé à
40 mètres. 40,
ouais, c'est ça,
je l'ai deviné.
Une quarantaine de mètres. Mais en tout cas, il y avait un contraste saisissant entre le paysage désertique, aride, et ce bleu profond, un bleu méditerranéen au milieu de ces montagnes. C'était extraordinaire.
Mais marcher seul, par exemple, sur Terre, parce que, alors on va parler aussi des plongeons que vous avez fait, on va dire dans l'eau gelée, glacée à 2 degrés en Finlande, ou toutes ces choses-là, mais quand vous marchez sac à dos sur Terre, dans des endroits vierges, Guillaume Néry, ça vous procure autant de plaisir que les plongeons au plus profond de la solitude liquide de l'océan ou des lacs, ou pas vraiment ?
Oh, si, moi je suis un... J'aime cette idée de l'odyssée du voyage. Alors j'aime bien parfois juste parcourir une distance, même si c'est pas forcément des endroits sauvages. J'aime cette idée du chemin, j'aime cette idée de la lenteur dans le cheminement. C'est pour ça que voyager à pied ou en vélo, ça fait 2-3 ans que aussi je fais des parcours en vélo. J'aime cette idée du temps long.
Ouais.
Et en apnée, finalement, c'est très court. C'est 3 minutes, entre 3 et 4 minutes, aller-retour. Donc c'est une solitude
l'homme
relative.
L'homme peut tenir au maximum combien ?
Alors,
sans reprendre son souffle.
Alors moi, par exemple, en apnée statique, c'est-à-dire où je ne cherche pas à descendre, à faire une distance, mais juste sans bouger, sans respirer, je tiens entre 7 et 8 minutes. Oh. Record du monde, c'est bien plus. Hein,
c'est combien ?
C'est 11 minutes 35.
En apnée statique.
En apnée statique,
11
ouais.
minutes 35 sans respirer.
Tout à fait. Oui, c'est
hallucinant.
Par un Français d'ailleurs, Stéphane Nifsud. Et donc, est-ce que capable de tenir l'homme, ça c'est la grande question des limites en apnée.
C'est
la
ça.
Question a toujours obsédé quelle profondeur on peut aller, quelle
c'est
est la
ça.
Limite en profondeur, quelle est la limite en temps. J'ai envie de dire qu'on a une capacité énorme d'adaptation et donc tout doucement on repousse ses limites.
Alors, je disais tout à l'heure, Guillaume Néry, que vous faites le plus avec le moins. Vous êtes par exemple un adepte du jeûne, et comme vous faites les choses toujours à fond, vous quand vous jeûnez pendant une semaine entière. C'est très long et épuisant, une semaine de jeûne total. Il s'agit que l'esprit, là encore, dompte, pilote le corps.
Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'expérience. Donc, je suis avide d'expérience à la fois physique au niveau du corps et surtout le lien avec l'esprit, avec la gestion de ces... De ces privations, parce que le jeûne, c'est une forme de privation. L'apnée,
oui.
c'est une forme de privation.
Mais oui.
Et je sais que je trouve quelque chose de très intéressant au niveau de ce que l'on peut atteindre comme état de transcendance psychique, spirituelle, grâce à ces expériences de privation du corps. Et donc le jeûne, effectivement, ça rentre
là-dedans. Ça se rapproche de cette espèce de félicité et d'ivresse des profondeurs. Vous parlez dans votre livre, justement, de félicité qui vous enlace. Et une fois qu'on n'est plus tiraillé par la fin et qu'on a franchi ce cap douloureux, on exulte.
C'est pas une euphorie, on n'exulte pas, mais on est juste assez, dans un sentiment de clarté.
De plénitude.
De plénitude, de clarté. Alors voilà, ça s'explique, hein, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Hein, c'est vraiment au niveau des mécanismes d'adaptation, au niveau du corps. Et il faut le faire bien, il faut bien se renseigner. C'est pas quelque chose. Le jeûne, ça se prépare.
Bien sûr.
Ça s'accompagne. Faut le faire dans certaines conditions. Mais si on le fait de manière raisonnable, c'est extrêmement intéressant. J'ai pas envie de me substituer aux scientifiques en disant c'est bon pour... J'en sais rien, en tout cas c'est une expérience très intéressante.
Voilà, c'est pas la question qui est la mienne, mais effectivement on comprend en tout cas qu'il faut le faire toujours très encadré. Et puis alors c'est pas tout, parce que on parle privation d'air, privation de nourriture, mais privation de chaleur aussi, parce que vous plongez sans combinaison, en Finlande, dans les lacs gelés où l'eau sous la carapace de glace est à 2 degrés, et vous écrivez « Le corps est dans un tel état de choc quand je fais ça que, en fait, mon corps ne vit plus, il survit. » Et quelques lignes plus loin, donc, dans ce livre, paru chez Artaud, Nature Aquatique, vous écrivez « Mais la pulsion de vie qui s'empare de tout mon être est si puissante qu'elle confine au divin. » On a l'impression, là on n'en a pas encore parlé tout à l'heure, on a parlé de transcendance, mais on a l'impression que c'est presque une quête religieuse.
Oui, alors justement, religion, spiritualité, en tout cas, il y a quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de toucher une forme de sacré en utilisant le corps. Mais tout à l'heure, on parlait de Arthur Guérin, Boéry, qui est mon ami, qui a fait 300 mètres en apnée dynamique.
Voilà.
Il vient juste de battre un record du monde sous la glace, justement, en maillot de bain. Donc, il a parcouru à la brasse, sous la glace, plus de 100 mètres de profondeur, donc à l'horizontale, et c'est un record du monde. Ils viennent le faire là il y a un mois, et c'est une performance assez incroyable.
Alors, avant qu'on ne se quitte, Guillaume Néry, je voudrais que vous nous parliez, et alors là, il s'agit vraiment de l'apnée, mais alors, on va dire récréative. Je voudrais que vous nous parliez de cette école, la Blue Néry Academy, que vous avez ouverte à Villefranche, et qui propose donc des initiations à l'apnée. Initiation ouverte à tous, et puis des randonnées palmées pour découvrir la faune et la flore de la rade de Villefranche. On y vient de 7 à 77 ans, et même plus que 77 ans, c'est possible ?
Complètement. C'est un peu l'idée de ce centre, de cette école, qui a pour but vraiment d'apprendre les gens par la main, les amener dans l'eau, vraiment dans une recherche de bien-être, de reconnexion à soi, de découverte du milieu, sans objectif de performance. Alors après, une fois qu'on est dans l'eau, et qu'on passe un jour, deux jours, trois jours à progresser, forcément, on améliore nos performances, mais ce n'est pas l'objectif.
C'est ça.
Et vraiment, l'idée, c'est d'arriver à réconcilier l'humain avec l'eau. Beaucoup de gens sont attirés, quand je raconte ces témoignages de ce que l'on peut vivre, mais se disent « Oh là là, non, ça, c'est pas pour moi ». Et moi, j'essaie de casser, déconstruire cette idée que je suis un extraterrestre, que j'ai des super pouvoirs. Non, c'est absolument accessible à tout le monde.
Alors, dans cette école, la Blue Néry Academy, je l'ai dit, on peut découvrir la faune et la flore de la rade de Villefranche, mais surtout, il faut savoir que les cours se donnent par groupe de 3 participants seulement, n'est-ce pas, pour une sécurité maximale. C'est-à-dire que là, vraiment, on est super encadré.
Oui, alors, c'est pas qu'une histoire de sécurité. Nous, c'est vrai que ce qu'on a voulu faire, pour essayer vraiment d'avoir un peu notre identité et de ce que moi j'ai envie de transmettre, j'ai toujours essayé de toucher le plus grand nombre dans les films que j'ai pu faire, dans ce livre-là.
La prochaine fois qu'on se retrouvera devant un micro d'ailleurs, on parlera du clip auquel vous avez participé avec votre compagne, la maman de votre fille, qui en était la réalisatrice pour Beyoncé, qui voulait filmer dans les profondeurs, n'est-ce pas ?
Oui, c'était un clip qui a eu beaucoup de vues, forcément, quand on y met Beyoncé. Beyoncé, ça cumule les vues. Et j'ai fait effectivement un gros travail aussi sur l'image et sur le de réaliser de manière artistique des belles vidéos pour montrer le monde sous-marin avec de l'image. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'écriture parce que c'est une autre manière. J'essaie de ne pas avoir de limite dans la transmission de cette passion. Donc ça passe par une école, ça passe par des films, ça passe par un livre. Le but, c'est que le plus de gens possible se disent « Oh, j'ai envie d'essayer », parce que vraiment, tout le monde peut en faire.
Eh bien, je vais vous dire, ce livre, « Nature aquatique », qui paraît chez Artaud, est absolument passionnant. Et en plus, vous avez une plume d'auteur, d'écrivain. Ben voilà, il faut plonger dans la lecture de « Nature aquatique ». Je vous remercie infiniment. Voyez, nous, le temps, une heure, c'est pas assez. Et moi, j'étais en apnée en vous écoutant. Donc, je vous dis à très, très bientôt.
Merci, à bientôt.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.